Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport en mode olympique à 19 jours des JO d'hiver de Milan-Cortina. On avait Christophe Cessieux, Cédric Aymance, Pascal Duprat, Julien Beneteau en mode olympique parce qu'on suit le slalom masculin de Wengen en Suisse avec Kevin Morand, passage d'un deuxième français, Kevin.
Ouais, et ça s'est pas très bien passé justement pour Paco Rassa, vainqueur le week-end dernier à Delboden et qui termine cette première manche avec 1 seconde 84 de retard sur Atleli Magrath, le Norvégien qui a le meilleur temps provisoire après 6 skieurs passés sur cette première manche. Paco Rassa 6e temps et Clément Noël 5e temps. Donc voilà, les deux Français en difficulté sur cette première manche à Wengen.
Et en attendant quelques instants, Steven Amier, dossard numéro 11 et Victor Mulfajandé avec le dossard 17. Ouais, Christophe, ça a été compliqué là pour nos Français sur cette première manche.
Ouais, là, Paco Rassa qui avait remporté le dernier slalom est parti un peu à l'envers dans ce tracé de Wengen. Il a pris du retard à chaque passage intermédiaire et franchement on l'a pas senti dans le coup aujourd'hui. Ça avait déjà été le cas précédemment pour Clément Noël qui lui en plus a fait une grosse erreur, sinon il serait resté quand même à 4-5 dixièmes et il est en ce moment à 1.39 du meilleur temps du Norvégien Magrath. Ça va être compliqué quand même de se rapprocher du podium parce que les écarts sont conséquents.
On verra effectivement tout à l'heure la deuxième manche. On attend encore nos Français dans quelques instants et puis on a du direct également en Australie. Vous savez que c'est le premier grand chelem de la saison. Éric Salio avec une Française notamment face à la numéro 1 mondiale sur le central.
Oui, Sarah Rakotomanga qui a bénéficié de la wildcard de réciprocité. Elle a perdu le premier set 6-4, mais vraiment elle a bien défendu ses chances. Mais maintenant, j'ai l'impression que la Bélarusse a compris le jeu de la jeune tricolore. Ça fait 6-4-2-0 pour Zabalenka. Quant à Benjamin Bonzi, il est revenu à l'ange partout face à Nori. Et surtout, il mène 4-1 au troisième. Et puis, je jette un œil sur le John Cain Arena. Venus Williams est sur le court. Eh oui, elle affronte une Serbe.
Quel âge elle a, Venus Williams? Si c'est pas trop,
elle est de. Elle est un an de plus que moi, là, 45 ans.
Mais pourquoi tu joues pas au tennis, toi, encore, du coup? Qu'est-ce que tu fais là?
Je préfère gagner, je préfère battre Christophe au jeu.
C'est vrai.
C'est les choix de carrière, les choix de vie. Tu vois. Ouais.
Il n'arrivait plus à battre Federer, donc il s'est rattrapé sur moi.
Ouais, exactement. Le Federer d'RMC, tu vois.
Est-ce que parfois tu dis dans ma vie, j'ai battu Federer à ses yeux? C'est sûr en premier. Hein,
bah, évidemment.
Tiens, d'ailleurs, Christophe va prendre le brassard de capitaine dans quelques instants pour nous parler de vélo. Hein. Vingegaard va faire le tentative de doubler Giro au Tour de France. Tu vas nous parler du suspense, peut-être un peu amoindri pour le prochain tour. Et puis, vous pouvez retrouver la première heure, évidemment, en podcast. On a parlé de Djokovic. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, vous pouvez remporter un ballon de basket authentifié et signé par Magic Johnson grâce à notre partenaire authenticsignature.com. Pour gagner votre ballon dédicacé par Magic Johnson, appelez le 3216, touche 4, ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. C'est fou, ça, quand même, d'offrir des cadeaux dédicacés par Magic Johnson. Mais d'abord, où vont s'arrêter les irrésistibles Lensois?
RMC, le ring des GG.
Le contrôle de Saïd, la frappe de Saïd, elle est vite! La Finlande! Le 8e but de Wesley Saïd! Meilleur buteur désormais du Racing Club de Lens.
C'est parti, monsieur Buquet donne le coup d'envoi qui est donné par les Angevins.
Le centre-front retrait du LOL! Oh, il la met au-dessus! C'est pas possible!
Timothy Weah en deux fois, qui réussit à transmettre à Greenwood, qui remet à Murillo le centre et le but! L'ouverture du score signé Guiri.
Il l'a dit en conférence de presse, Pierre Sage, il vise les 7 prochaines victoires, c'est-à-dire 21 points, ce qui veut dire 61 au total, et 61 normalement tu es en Ligue des Champions.
Oh, Mason Greenwood, 112e but de la saison, qu'il est beau, ça a été vite, beaucoup trop vite.
Il est passé, le 3e pour les Marseillais. C'est terminé, victoire difficile, mais victoire importante pour Lens.
C'est la corrida à Angers, c'est incroyable, avec le 4e.
Attention Pachaillot, est-ce qu'on va l'avoir le 5e? On va l'avoir, oh là, Hervé Coffey qui se trouve. Et Hervé Coffey qui se trouve 5-1.
Et finalement, eh bien, ça sera le Buquet final avec le coup de sifflet sur ce score de 5-2.
Le but, Le Buquet final, il est bon, Pierre-Yves Leroux, commentaire quand même, pour lui buquer l'arbitre qui était au sifflet de cette rencontre. Lens continue sa folle saison, 8e victoire consécutive en Ligue 1 hier soir à Bollard, un record pour le club sans Eor, qui en est même à 10 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Hein. Nouvelle victime au Serre, battu 1-0 avec un but de Wesley Saïd. Les hommes de Pierre Sage reprennent la tête du championnat avec un point d'avance sur Paris après 18 journées. Marseille a renoué avec la victoire à Angers, 5-2, et se retrouve à 8 points de la tête. L'OM et Lens s'affrontent. Tiens. Samedi prochain, au Vélodrome, les GG, je vous pose la question ce matin. La course au titre vous fait-elle vraiment vibrer en Ligue 1? J'ai trois oui, Pascal, Christophe et Cédric. Un non, Julien Beneteau. Vous avez voté sur le compte XD Grande Gueule du Sport et vous pouvez continuer. Vous dites non à 59% pour l'instant sur notre
alors sondage. Moi je suis très mesuré quand même.
Ouais, c'est bizarre.
Elle m'intéresse, elle me fait vibrer.
On me fait passer pour être seul contre tous.
Non, je suis avec toi, t'inquiète.
Bon, très bien. Bah, moi je veux bien être seul contre tous.
Pascal, je suis avec toi.
Comme d'hab.
Pascal. Après, on dirait la cour de récré. Non, je suis avec toi. Finalement, tiens, mets le dossard rouge. Putain, j'ai un ballon en mousse, j'arrive. Écoutez, Pierre Sage, l'entraîneur Lensois a parlé hier soir de la course au titre.
Pour chasser Paris, il ne faudra pas y aller avec Lens-Pierre, parce que c'est quand même un beau club qui fonctionne très bien, et c'est vrai que le fait qu'hier ils aient gagné a peut-être influencé sur le fait qu'ils nous aient emprunté cette première place pendant quelques heures, mais je suis quand même assez lucide sur le fait que lorsqu'ils vont vouloir que les choses changent et qu'elles changent définitivement, ils seront en mesure de le faire.
Pierre Sage, écoutez le buteur Wesley Saïd également après cette rencontre remportée par les Lensois.
À ce moment-là, de toute façon, le plus important c'est à la fin. À ce moment-là, c'est bien d'y être. Ça veut dire que nos efforts sont en train d'être récompensés et il faut s'appuyer là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas anodin si on est là aujourd'hui. Il faut continuer comme ça si on veut continuer de rêver. C'est historique. On est très content de marquer le club, aspire à faire encore mieux et on aimerait continuer dans cet état d'esprit.
Voilà, le discours quand même est un peu ambitieux. Hein. On l'entend désormais dans les mots des Lensois. Tiens, alors Christophe, ce qui m'intéresse, parce que tu as dit finalement, je suis plutôt avec Julien dans le camp du non sur.
Non, alors c'est un peu mesuré. C'est-à-dire que je trouve cette situation bien plus excitante que ce qu'elle n'était l'année dernière ou les années précédentes. L'année dernière, à pareille date, à la 18e journée, je crois que Paris comptait 9 points d'avance sur l'OM et l'année d'avant, 8 points sur Nice. Et on pourrait remonter comme ça très loin, ou mis à part une ou deux saisons où Paris dominait un peu moins. Mais autrement, c'est vrai que c'est devenu l'habitude finalement. Paris se détache et Paris va gagner le titre. Je crois qu'ils en sont à 11 titres décrochés en 13 saisons. Donc c'est vrai que c'est un peu lassant parfois. Donc voir qu'un club s'accroche et même domine le Paris Saint-Germain depuis 4 journées maintenant, on est ravis. On est ravis de le voir comme ça. Mais il n'empêche que j'ai l'impression que personne n'y croit vraiment, que personne ne croit que Lens pourra, à la fin de la saison, garder un ou deux points d'avance sur le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que moi, je suis intéressé, mais je vibre pas parce que j'ai bien peur que malheureusement,
ça,
pour les Lensois,
il y a un club qui peut... qui sont sur 9 victoires, c'est ça?
Ou ouais, 10, même 10 toutes compétitions confondues. Même. Ouais,
10 toutes compétitions confondues. Pour une fois que ça change, il faut vibrer, il faut en faire des caisses, il faut valoriser cette performance. Après, peut-être qu'ils tiendront pas à la distance, mais à date, ils font quelque chose de plutôt bien, mais... remarquable. Sinon, il n'y a pas de passion dans ce championnat. On sait que sur les 13 dernières éditions, comme tu viens de le dire, 11 fois le PSG, il n'y a plus rien. Tu vois, tu t'allumes la télé, tu sais qu'il va gagner dès la première journée.
Non, mais voilà, il se passe quand même quelque chose. Plus qu'un frémissement, même Pascal, c'est pour ça que tu es dans le camp du oui, j'imagine.
Ouais, c'est pour être tout à fait franc, hier, merci en préparant l'émission avec Maxime, le producteur, donc je disais, bon, j'ai l'impression que Paris va encore une fois être champion et va mettre tout le monde d'accord. Mais j'ai quand même repris les stats et je suis allé plus loin que Christophe. Parce que la dernière saison où Paris accusait un retard sur ses concurrents au titre après 18 journées, c'était en 2020-2021. À cette époque-là, l'OL était en tête avec 3 points d'avance. Or, cette saison, c'est Lille qui a été sacrée. Donc, cette stat-là, où Paris a du retard après 18 journées, je vous le rappelle, c'est plus que la moitié du championnat, puisqu'il ne reste que 16 journées, je me dis attention. D'autant plus que Lens a gagné 14 matchs sur 18. C'est beaucoup, même mieux que Paris quand ils sont au top top. Donc avec le public lensois, avec un match retour qui va se jouer à Lens, les oppositions directes vont être prépondérantes, avec un Paris Saint-Germain qui aujourd'hui, quoi qu'on en dise dans leur tête, ils ont faim d'un doublé en Ligue des Champions. Je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas Lens venant confirmer son début de saison exceptionnel.
Tu crois, ouais, tu crois. En tout cas, ça te fait vibrer de voir cette résistance ouais. lensoise pour l'instant. Bennett, toi, t'es pas forcément d'accord sur cette course au titre. Ça t'enflamme pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que t'y crois pas.
Moi, c'est parce que Marseille est plus vraiment dans la bagarre.
Alors, pour premièrement,
attendez, Marseille la semaine prochaine.
Ouais, ça je viens de regarder, il sera 8 points. Je savais pas. Je me rendais pas compte. C'est-à-dire que s'il gagne pas la semaine prochaine, il pour revenir à 5 points de Lens, mais s'ils font ça, ça va faire les affaires du PSG, puisque PSG va repasser devant Lens. Donc Marseille, c'est mort pour le titre. Moi, ça me fait pas vibrer, parce qu'on est que le 15 janvier, pour l'instant, enfin le 20 janvier. Il y aurait la même situation à...
Fin avril.
Voilà. Là, ouais, je vibrerais, parce que je me dis, il y a un vrai suspense, il y a un vrai truc, et que c'est mon avis, et c'est totalement subjectif, c'est que je pense vraiment que le PSG va finir par être champion. Comme l'a dit Pascal, les chiffres de Lens sont exceptionnels. Limite, il surperforme. 14 victoires en 18 matchs, c'est incroyable.
Non, mais c'est quoi? C'est un miracle? Ou c'est
quelque chose? Il y a des équipes. Il y a des équipes comme ça. Dans Brest, ils ont fini en Ligue des Champions. Tu savais pas pourquoi. Voilà.
À leur niveau,
c'est l'alchimie. Exactement.
Les joueurs se trouvent.
L'entraîneur.
Ils sont pas le petit 5% qui fait balancer.
Exactement.
Mais tu l'as sur une année, tu l'as pas sur l'autre. Il y a des saisons comme ça. Ils sont pas perturbé par la Ligue des Champions, ils n'ont pas
cette position.
Voilà. Alors c'est un peu édulcoré parce que Lens est qualifié en Coupe de France.
Exactement.
Donc ils ont des matchs à jouer que Paris ne joueront plus puisqu'ils sont éliminés. Mais il y a la Ligue des Champions quand Paris va enchaîner tous les trois jours. Pendant ce temps, Lens va pouvoir préparer, peaufiner.
Mais franchement, est-ce que aussi le travail qu'il fait actuellement, moi je ne sais pas, quand je vois des personnages comme Pierre Sage par exemple, comme entraîneur aujourd'hui, qui est fantastique à la fois dans le discours et aussi dans le jeu qu'il propose, quand on voit des joueurs comme Florian Thauvin dont on se demandait est-ce qu'il va arriver, bah finalement il s'impose comme un patron déjà, et toute cette
mais
équipe qui a beaucoup bougé, ils ont beaucoup recruté intelligemment, franchement c'est un modèle pour les autres clubs de Ligue 1.
Alignement des planètes,
oui,
et tout ce que tu sais.
Donc c'est quoi, c'est un état de grâce peut-être?
Oui, intelligemment, oui.
Parce c'est aussi un savoir-faire,
l'état de grâce ça dure pas. Par contre, le savoir-faire, la méthodo de garder de la perf, de garder du haut niveau, le management des hommes, ça, c'est dû au coach et au staff.
Vas-y, finis ça.
Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le PSG, d'habitude, est en tête. Là, ils vont courir et ça va être eux, les chasseurs. Du moins,
mais attendez, quand on va arriver en mars, si jamais Lens est toujours là, eux, ils auront la tête à la Ligue des Champions.
Oui, voilà.
Peut-être qu'ils vont se dire.
Mais quand on est en championnat,
il y a la Coupe du Monde qui arrive derrière, donc les internationaux ne veulent pas se blesser. Je veux pas être conspirationniste, mais il y a plein d'éléments qui peuvent venir perturber la fin de saison aussi.
Attendons de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Je pense que c'est un match capital.
Lens
attend les Lensois qui se déplacent à Marseille samedi prochain.
Mais comme ça, après ce match-là,
je crois à ces planètes qui s'alignent, le travail des coachs, le travail mental, de réussir à capitaliser sur les bonnes stats. 18 sur 14.
Grégoire, supporter lensois, est avec nous. Je voudrais qu'on l'entende parce qu'il était à Bollard hier soir et pour qu'on comprenne peut-être tous, voilà, les auditeurs partout en France, ce qui se passe à Lens actuellement. Salut Grégoire.
Bonjour les grandes gueules.
Bon, t'es sur ton nuage, je crois, ce matin. Explique-nous un peu ce que vous ressentez à Lens. Vous commencez à y croire, hein, cette course au titre, un peu comme les joueurs et coachs. On commence à sentir dans leurs mots que c'est pas tabou d'en parler, quoi.
Ben oui, ça commence à sentir bon. Moi, j'étais à Bollard avec ma section bus magique que je profite pour saluer. Et oui, on est en train de rêver. On est sur un nuage. Franchement, c'est incroyable ce qui se passe. Ce que Pierre Sage est en train de faire avec un effectif sur le papier qui est pas ouf. Et il arrive en fait à ressortir le maximum de chaque joueur. Et on est vraiment sur un nuage. Moi, quand je vais au stade, en fait, c'est tout ce qui se passe dans ce club, notamment ce qui a été reversé au club de Béthune en Coupe de France. En fait, il y a une good vibe dans ce club qui est vraiment extraordinaire. Et moi, quand je vais au stade, j'ai l'impression que je vais manger mon poulet rôti le dimanche midi en famille. C'est vraiment une grande famille. Et c'est juste incroyable. Donc, On parle souvent entre amis, on échange, on analyse sur la performance de notre club et on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter en fait. On oublie même de savourer parce qu'on se dit c'est incroyable.
Il se passe quoi dans la ville là, ça, vous sentez que ça monte, vous dites ça va s'arrêter ou pourvu que ça continue hein. Ça continue.
Franchement, on navigue entre deux eaux parce que on comprend pas trop ce qui se passe. C'est juste
extraordinaire. Vous l'analysez pas quoi.
Ouais, on est dans l'engouement et comme vous l'aviez dit précédemment, là il y a un gros test qui arrive le week-end prochain. Mais moi je reste en tant que supporter en soi lucide et je me dis que pour un top 3, je signe. Mais c'est vrai que ça commence quand même à sentir plutôt bon.
Ça
on a
bon
quand même 8 points d'avance sur voilà.
S'ils perdent pas à Marseille, bon.
Non mais
c'est le top 2.
On a 8 points d'avance sur Marseille et ça commence
à sentir. Si y a un match nul, c'est top 2.
Non mais c'est super de t'avoir avec nous, Grégoire, supporter lensois, Bollard meilleur pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Non mais Pascal, les contextes positifs. Ça, c'est important aussi dans un moment comme ça. Tout ce que décrit Grégoire, c'est pas anecdotique.
En fait, moi, j'ai regardé le match hier. Donc, je veux simplement dire une chose. En première mi-temps, Auxerre pose beaucoup de problèmes à Lens. Mais tu sens qu'il y a une sérénité. Il y a un esprit d'équipe. Il y a une cause commune où, même alors que la mi-temps est moyenne, tu te dis Lens va gagner. C'est sûr. Ça, c'est la force de l'habitude. Or, ça fait 10 victoires consécutives. C'est une équipe qui est sereine. Tu te dis, elle n'est pas là par hasard. Donc, il faut simplement se dire que Lens, c'est pas complètement stupide, vous en conviendrez, que de dire, après 18 journées, quand Lens est en tête, que de dire que c'est un concurrent au titre, avec toutes les affres dues aux blessures pour les Parisiens qui se sont passées en la première partie. Pourquoi ça ne serait pas la même chose? Je l'espère pas, encore une fois. Hein. Mais pourquoi ça ne pourrait pas être la même chose? Je pense que Paris va être flamboyant au printemps. Mais d'ici là, est-ce que la messe ne sera pas dite en championnat? Parce qu'encore une fois, il y a un Lens PSG.
Ouais, puis Pascal, tu l'as vécu quand tu es dans un vestiaire et tu sais que je pense que quand ils retournent en seconde période, les Lensois, la première mi-temps n'est pas bonne, mais ils sont tellement en confiance, c'est impalpable.
Ils sont en confiance.
Ils reviennent, ils font 5 minutes de folie. Et ça, quand tu joues, que tu vis le vestiaire et que tu te fais tes semaines d'entraînement, le jour où t'es pas bon, tu dis c'est pas grave.
Ce ressenti-là, il est extraordinaire pour un joueur.
Je vais parler d'un mot un peu vulgaire, mais c'est jouissif.
C'est pas vulgaire. Ah ouais, vulgaire. Ouais. Carrément.
Tu me dis, mais allez, fais ce que vous voulez, de toute façon, il peut rien nous arriver.
Mais t'es en tranche, en fait.
Je te rassure, ça m'est pas arrivé souvent, moi, en tranche, avec les équipes.
Mais si.
Non, mais.
Venette,
oui. Ouais, ce que tu disais, Jean, il y a quelques instants sur le recrutement intelligent, sur. Là, pour l'instant, c'est éphémère. C'est pour aller dans ton sens.
Attends, 10 victoires consécutives.
Attendez, je
vais
pas venir.
En fait, c'est-à-dire à partir de quel moment on peut s'enflammer vraiment pour Lens?
Non, mais...
moi, c'est ça le truc. Je vous trouve tous un peu quand même.
À la 37e, ils ont 3 points d'avance.
Ah, mais là, il y a quand même quelque chose de concret qui s'installe maintenant, quand même.
Sur cette année,
le travail, c'est solide en plus.
Sur cette année, sur cette saison, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Et ils finiront au pire du pire. S'il y a un cataclysme, ils finiront 3e. S'il y a un cataclysme. Donc, ça veut dire que leur saison, elle est magnifique, exceptionnel. Mais pour savoir si c'est dû à un recrutement intelligent, s'il y a vraiment une méthodologie, etc. Si l'année prochaine, ils sont 8e ou 10e, avec les mêmes joueurs, ça veut rien dire. C'est juste que là, il y a des planètes qui sont alignées, parce que Sage, il tire le meilleur de son groupe. C'est fantastique. J'espère qu'ils vont aller le plus loin possible, parce que c'est un club qui attire la sympathie.
Il y a des joueurs aussi.
On
va pas attendre la saison prochaine pour dire que Lens est concurrent au titre.
Ça me fait penser à la saison réalisée par Lens il y a 3 saisons avec Francaise qui était au pouvoir. À l'époque, Lens rivalisait de la même manière avec le Paris Saint-Germain. Il y a eu un match clé où ils ont perdu contre Paris. Ils ont eu un expulsé dès les premières minutes.
Ils ont fini à un point.
Et ils ont fini à un point. Oui,
Paris était champion à 3-4 de journée de la fin. Ils ont joué
Lens concédait 6 points de retard à la 18e journée.
C'est faux de dire ça. Toi qui es journaliste, t'as pas le droit, tu peux pas analyser en disant ils ont fini à un point.
Mais je le dis quand même, c'est factuel.
Ok, si tu veux duper tes auditeurs, c'est pas avec ta conscience.
Alors, on va faire un test grandeur nature. Georges, Lens champion de France?
Je ne l'exclus pas.
C'est la réponse. Georges a donné la réponse à ta question bidon. Nous ne l'excluons pas. Point barre. Il n'y a pas d'autre réponse.
Sur bidon.
Non mais je sais que vous
Monsieur Normand, tirez les premiers.
Exactement. Je ne l'exclus pas. On verra peut-être que si Dembélé est un peu blessé, qu'ils sont fatigués par la Ligue des Champions, il y aura peut-être une possibilité.
Je ne l'exclus pas. Je me fais vibrer. Bonjour la vibration.
Les grands mots. C'est pas les grands gueules du sport, c'est les grands mots du sport. Ouais,
hein. C'est les boubous. C'est les boubous du sport. C'est bon, vous avez terminé, hein? Allez, tout le monde dehors. Allez, la consotine vous fait-elle vraiment vibrer en Ligue 1? Vous voyez que ça vous fait vibrer, finalement. Ah, j'attendais 10h30. Là. C'est bon, et où, les gars? Enfin.
Ouais, parce que j'ai posé une question intelligente.
61%. Non. Si vous cherchez un allié dans la vie, n'allez surtout pas chercher Christophe Cessieux. 61%, non, elle ne vous fait pas.
Donnez-lui ses cachets, voilà.
Merci, David. Voilà, la voix du peuple est avec nous
encore. Allez, du coup, je remercie Grégoire en 36-16 qui a été avec nous. Du coup, j'hésite un peu à lui donner le brassard, mais il le prend quand même pour être capitaine des GG dans quelques instants. Christophe Cessieux va nous parler du prochain Tour de France. Et un peu inquiet.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport en grande forme. Moi, je souligne toujours la psychologie positive de Pascal Duprat. Je signe. J'irai dans son cabinet de psychologue. J'irai.
Tu seras bien reçu.
Positif. En même temps, si tu me dis que je suis mal reçu alors que t'es dans la psychologie positive, ce serait quand même incroyable. Tu imagines?
Non, mais en plus de la consultation, ah ouais, Georges, c'est ce que je voulais dire. Sûr, ouais. C'est un concept, c'est un week-end, tu vois.
Oui, bien sûr.
De bons produits.
Faisons ensemble le cabinet de Pascal Duprat.
De bons produits, un peu de fromage, un peu. Ouais, on pourrait se mettre bien.
Du raisin.
Oui,
tu peux trouver de bons produits, effectivement.
Ah, il me fait penser un peu à Jean-Pierre Raffarin, moi. Oula. Pascal Duprat. Ah, c'est un peu la positive attitude.
D'accord. Voilà. Maintenant, il me compare à un homme politique.
Jean-Pierre Raffarin qui avait à la base repris la positive attitude de Laurie.
Exactement. Je dis aux jeunes, la fête, c'est la vie. Ouais. La vie, c'est ton visage. Ouais. Il est un peu dans cet esprit-là, mon Pascalou. Ouais.
Je m'attendais pas à ça ce matin. Voilà, je vous dis, Pascal Duprat. Jean-Pierre Raffarin, Laurie, le triangle improbable là.
Faut l'amener à radio, ça.
Ouais, écoutez,
définitivement, merci.
Je sais pas si c'est ce qui nous aidera à faire plus d'un million d'auditeurs, mais il faut tenter des choses. Voilà. Allez, le direct d'abord avec le ski alpin à Wengen en Suisse. Kevin Morand, ça s'est pas très bien passé pour nos Français pour l'instant dans la première manche. Hein.
Oui, cette même Nichen de Wengen, on le sait, est l'une des plus exigeantes de la saison de slalom et nos Français sont passés à côté après 23 concurrents. Clément Noël compte le 6e temps provisoire, 8e chrono pour Paco Rassa, parti avec son dossard rouge de leader de la Coupe du Monde de slalom. Noël compte 1 seconde 39 et Rassa 1 84 de retard sur Atle McGrath, le Norvégien vainqueur en titre d'ailleurs sur la piste de Wengen. Il y a eu un seul slalom sans Français sur la boîte cette saison en slalom, mais ce sera compliqué de monter cet après-midi. Victor Mufajandet, lui, prend le 14e temps provisoire et puis Steven Amier malheureusement a dû abandonner. Son pied gauche a buté dans le piquet dans le deuxième secteur. Le ski a sauté et Amier s'est retrouvé à plat ventre. Rien de grave a priori pour Steven Amier qui s'est relevé dans la foulée mais qui n'a pas pu terminer et qui ne sera donc pas en deuxième manche cet après-midi.
On a déjà vu Amier à plat ventre mais c'était dans d'autres environnements.
Et c'était pas le même.
On embrasse Bastoun. Deuxième manche à 13h tout à l'heure. Il y a également du... Ben voilà. Est-ce qu'on a positive attitude?
Est-ce que Pascal pourrait chanter?
Ouais. Pascal, je le vois bien. Je suis pas dedans, c'est tout.
Hein, même pas en rêve, je chante, je connais même pas la chanson.
Est-ce qu'on a un petit pas de côté quand même sur le rythme? Non.
Est-ce qu'on a
ça, c'est possible, ça.
La positive attitude également.
Juste un petit coup de hanche. Tu sais, quand t'as le coude sur le bar.
Vous me faites peur. Je ne sortirai jamais avec vous, les gars. Est-ce qu'on a la positive attitude en Australie à l'Open à Melbourne? Eric Salio, on avait une Française sur le centre.
Ben, malheureusement, c'est terminé pour Sarah Rakotomanga qui a été battue fort logiquement par Arina Zabalenka 6-4, 6-1. Et la Bélarusse qui est en train de répondre aux questions
de Jelena Dokić, et elle était un petit peu tendue parce que dans, je vous l'avais dit, hein, au premier rang, il y avait Rod Laver et Roger Federer. Donc elle a mis du temps à trouver ses marques. Mmh. Mais c'est une belle expérience pour la jeune française, donc qui était wildcard. Elle est 118e WTA. Je pense qu'elle va franchir le top 100 bientôt parce qu'elle a vraiment de vraies qualités. Mmh. La bonne nouvelle, c'est que Benjamin Bonzi mène désormais deux manches à une face à Cameron Norrie. Ouais. Vous savez par qui est coaché Benjamin Bonzi?
Bon, par
Julien
Nicolas
ne répond pas, bien sûr. Bah oui, bravo.
Ouais, mais tu sais, on est des experts ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Je vois ça. Ouais. Non, vous êtes trop fort.
On essaie d'être à l'auteur. Et d'ailleurs, ce serait pas même Carlos Alcaraz qui arrive bientôt sur la Rod Laver Arena, là?
Absolument. Il va pas tarder à pénétrer donc sur la Rod Laver Arena pour son premier match contre un Australien, Adam Walton, et surveiller sa coupe de cheveux. Je pense que son frangin lui a bien tordu le crâne hier soir.
Oh, mais voir. Qu'est-ce que c'est que cette folie à chaque fois qu'ils arrivent sur les grands chelems?
Bah, ça lui avait réussi à l'US Open. Hein.
Ça lui avait réussi. Je vois aussi c'est pour ça. Mais bon, les gars marginaux, ça passe peut-être aussi par ça. Allez, tout de suite, Captain Cessieux, prends le brassard de Capitaine DG.
RMC, Captain Cessieux met le brassard.
Captain Cessieux, ce qui t'a fait réagir cette semaine, c'est l'annonce de Jonas Vingegaard de faire le Giro avant le Tour cette saison.
Et oui, on avait déjà assez peu d'espoir d'assister à une grande boucle 2026 pleine de suspense avec des coureurs capables de mettre à mal la domination de Pogacar. Et depuis mardi dernier, ce semblant de suspense a pour moi complètement disparu. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que Jonas Vingegaard, le seul qui était parvenu lors des dernières éditions à rivaliser et même à battre le Slovène, a donc annoncé cette semaine qu'il allait bien participer au Tour, oui, mais qu'avant cela, il s'alignerait pour la première fois de sa carrière sur le Giro en espérant décrocher la victoire dans le seul grand tour qui manque encore à son palmarès. Alors, je dis pas qu'il a tort, hein. Au contraire, en remportant le Giro, il aurait déjà réussi sa saison. Il entrerait dans un cercle très fermé, celui des vainqueurs des trois grands tours, exploit que seuls 7 coureurs dans l'histoire ont réussi à faire. Et franchement, au vu de l'adversité, je pense que c'est dans les cordes de Vingegaard. En revanche, lorsqu'il nous dit que le Tour d'Italie ne sera qu'une agréable mise en bouche et que sa priorité de la saison demeurera le Tour de France, là, l'ami Vingegaard ne me convainc pas. Certes, Pogacar a réussi en 2024, cet incroyable exploit, rarissime, le doublé Giro Tour. Seul Pantani au XXIe siècle l'avait réussi, mais pour moi, le Danois n'est pas fait du même bois que Poggi. C'est un très beau champion, pas de doute là-dessus, mais ce n'est pas l'as des as comme les Pogacar. Si je devais le comparer à d'autres champions, je le casserais plus dans la catégorie des Froome, des Contador, plutôt que dans celle des Merckx et Pogacar. Alors c'est déjà formidable d'être dans ce groupe-là, mais selon moi, un Vingegaard fatigué par 3 semaines de bagarre sur le Giro, où la météo est souvent très fraîche avec seulement 4 semaines de récup entre la fin du Tour d'Italie et le départ de la Grande Boucle, réussir le doublé et inquiéter Pogacar me semble relever de la mission impossible. Chez Visma, on tente bien de convaincre, chiffre à l'appui, expliquant notamment que les données de Vingegaard, qui avait enchaîné l'année dernière Tour et Vuelta, étaient meilleures sur le Tour d'Espagne que sur celui de France. Le Danois serait donc un surhomme, insensible aux efforts répétés et même sublimé par ceci. Vingegaard qui nous dit aussi que le parcours du Giro ne sera pas aussi dur que ça et que du coup il ne tapera pas dans ses réserves et on gardera sous le pied pour le Tour de France. Oui, bah là aussi j'ai du mal à être convaincu. Même s'il y aura moins de cols terribles sur le Giro 2026, ça reste une épreuve hyper difficile et les coéquipiers de Poggi vont se faire un plaisir de harceler Vingegaard de manière à l'empêcher de devenir vainqueur des trois grands tours avant Poggi. Bref, j'ai bien peur que la bagarre entre les deux hommes me fasse en 2026. J'espère me tromper, j'espère aussi refaire, que là. D'autres ouais. viendront combler le vide, pourquoi pas Evenepoel ou même Lipovic, voire Ayuso, et pourquoi pas Sexas, et oui, même si je pense qu'il faudra attendre quelques petites années avant de voir notre pépite capable de rivaliser avec Pogacar.
Ça va faire comment le Tour de France?
Pour la bagarre générale.
C'est Hollywood, ouais. Les effets spéciaux. Ouais. Hein. C'est un truc incroyable. Est-ce que vous êtes d'accord avec Captain Cessieux? Tiens, sur le WhatsApp au 06 12 424 424, Sylvain est d'accord avec toi. Effectivement, il y a déjà plus de suspense sur le tour. Romain dit attention au duo, Lipovic, Evenepoel pour l'équipe Red Bull sur le Tour de France. Pascal, t'es d'accord avec Captain Cessieux?
Bah, je peux pas aller contre son argumentaire, mais je suis pas d'accord parce que par nature, tant que c'est pas fait, je vais pas dire que c'est déjà joué d'avance. Il y aura bien une année où les vents sont contraires pour Pogacar, même si c'est un monstre, et j'en conviens Christophe, et même si Vingegaard fait le tour, le Giro avant, qui me dit que avec 4 semaines de récupération, et à plus forte raison s'il l'emporte, le Giro, il soit pas aussi en pleine bourre au départ du Tour de France. Donc, tout ce que tu as dit est merveilleux, mais je veux y croire. Parce qu'autrement, ça voudrait dire que je ne regarde pas le Tour de France jusqu'à l'arrêt de la carrière de Pogacar, en fait.
Non, mais attends, c'est pas la peine de regarder. Sur le Tour, il y a d'autres.
Il y a d'autres histoires.
Non, mais peut-être que Vingegaard, il veut gagner les trois grands tours avant
Pogacar.
Pogacar, comme ça, il aura coché sur sa liste. Et puis voilà. Après, est-ce que. Alors, hier, quand on préparait l'émission, je dis est-ce qu'il ne va pas s'en servir pour chauffer les jambes, puisqu'apparemment, après le premier tour, il est meilleur sur le second.
Non, mais il a un programme cette année, pour l'instant, avec que 4 courses, effectivement. Hein. Le Giro le prépare au Tour de France.
Non, mais je pense que c'est surtout les coéquipiers de Pogacar qui vont l'user, lui mettre la misère partout. Ouais. Et il va arriver, il sera malheureusement peut-être un peu trop rincé sur le tour.
Après, il y a peut-être un argument qu'il faut prendre en compte. Christophe, je compte sur toi pour le soutenir. J'ai l'impression que Pogacar, il en a un peu marre du Tour de France aussi. Et ça peut être une composante.
Écoute, il en avait marre à la fin du dernier tour, parce que la pression permanente pendant 3 semaines le gonflait. J'ai l'impression, moi, qu'il s'est requinqué et qu'il est reparti pour une saison de folie. Hein. Il est apparu assez serein lors des présentations.
Oui, mais regarde cette étape. Red Bull, si ça se passe pas bien, qu'il est obligé d'épuiser trop tôt et trop vite dès la première ou deuxième semaine,
on essaie de trouver des. Bah oui,
mais sinon, tu parles de quoi? D'autres belles histoires.
Moi, je suis d'accord avec Christophe et moi, je vais même plus loin. Alors oui, peut-être que Vingegaard, il a l'opportunité de gagner les trois tours et c'est pas rien. Mais parce que je pense qu'il y a deux facteurs. Moi, je pense, c'est que son équipe,
Visma,
The Bike, il faut qu'il gagne les grands tours et que, en l'état actuel, ils savent que le Tour de France, ils le gagneront pas. Donc, ils veulent tout mettre sur le Giro, premièrement. Et deuxièmement, Vingegaard, lui, personnellement, je pense qu'en faisant ça, il veut s'octroyer une victoire de prestige parce qu'il sait, au fond de lui, qu'il peut pas battre Pogacar. Il l'a dit l'année dernière, il est plus fort que quand il a gagné les Tours de France. Il a pris 6 ou 7 minutes l'année dernière. L'autre, il est trop fort. Donc, je vais faire le Giro. Je vais essayer de gagner un grand tour.
Après, on verra. Il arrivera sans pression.
C'est horrible.
Ça, c'est bien. S'il a gagné le Giro avant Vingegaard, il arrivera sans pression.
Oui.
Franchement, on n'attendra pas de lui.
Mais ça doit être dur quand même, un champion comme lui, de se dire à la régulière, je ne gagne pas Pogacar.
Ouais, mais bon, c'est ton jamais. Voilà, Pogacar, c'est vrai qu'il va s'aligner un petit peu partout. Est-ce qu'à un moment donné, il va jouer
Ce ras-le-bol mental qu'il a eu en fin de tour l'année dernière, s'il a un peu plus tôt parce que ça se passe pas bien et que tout d'un coup ça se met à tourner moins vite et moins fort.
Pogacar, il est obligé par tout l'environnement de gagner son 5e Tour de France et d'égaler le record de Merckx, oui, de Anquetil, de Bernard Hinault et de Miguel Indurain. C'est-à-dire qu'il a la pression quand même sur lui. Lui qui aime bien jouer, là il est quand même plus attendu que jamais. Donc on va attendre de voir. Après, tout va dépendre de ce que Jonas Vingegaard est capable de faire sur
puis
le.
C'est long, 3 sur le tour.
Et puis, en attendant, il y a une saison à faire. Il y a le risque des chutes, exactement, des blessures.
Il fait des courses risquées, hein, Pogacar. Hein.
Il prend des risques en s'alignant un peu partout.
Mais sur des courses comme Roubaix, comme l'Estrade Bianche, il ne se réserve pas, Christophe. Après, il faut écouter l'intégral tour quand même.
Mais bien sûr, parce que nous, on raconte plein de trucs. On ne parle pas que du classement général. On fait des blagues aussi.
Ah, le pire teasing de
c'est un mélange de sport et de
franchement, voilà.
Venez nous voir sur le tour, on fait des blagues.
Avec un petit accent, on fait des blagues aussi.
Qu'est-ce qui vous excite le plus?
Moi, c'est pas la domination de Pogacar qui m'excite le plus au départ de ce Tour de France 2026. C'est de savoir si c'est que ça y est. Et s'il y est, de le suivre au quotidien pour voir comment il peut progresser.
Voilà.
Je pense qu'il y sera, je pense pas qu'il se mêlera à la bagarre en tous les cas pour le podium. Ouais. Mais en tout cas, ça va être super intéressant de voir.
Je vais poser une question con à mon tour. Christophe, tu penses que Sexas, il est déjà au niveau de Vingegaard?
Bah, s'il a 8 points d'avance.
Allez, tout Marie Pascal. Tout de suite, les GG remontent le temps. On va parler du Dakar. Et écoutez, on compte sur vous également. 32-16 sur RMC pour participer. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Les grandes gueules du sport, on en apprend tous les jours. Cédric Emmons avait dit qu'il a déjà rapproché les 100 km/h
à vélo. 97 à vélo, ouais.
D'accord.
Sur une descente en Espagne où vont se préparer les coureurs.
D'accord.
Par contre, la peur de ma vie, quand il a fallu engager le freinage, le vélo il tremblait. Je pense que j'ai eu la chance de faire un peu plus de 100 kilos. Ça a stabilisé le vélo.
Ah oui, là sinon c'était 1-2-3 soleil. Hein.
Ah ben là, mais en fait, il y avait Ravin. Hein.
Dans un instant, le vestiaire des GG, comment passer le témoin alors que nos handballeurs français débute l'Euro sans aucun expert, l'un de ses champions. On ne parle pas d'athlétisme. Hein. Ah, il n'y a pas la Djidou Kouré qui a donné un marque tactile. Non, 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 c'est pas ça.
Dommage.
Et d'abord, les GG remontent le temps, il y a 40 ans.
Le Paris Dakar en deuil. Thierry Sabine, Daniel Balavoine et trois autres personnes sont mortes dans un accident d'hélicoptère.
Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant.
Il y avait à bord Thierry Sabine, Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnou, le pilote, Daniel Balavoine et Nathalie Audan du journal du dimanche, et tous les cinq sont morts.
Le terrain était très très plat, il y a une très mauvaise visibilité, et l'hélicoptère s'est d'abord posé une fois, et puis il a redécollé en suivant un peu les phares d'une voiture. Seulement, bon, ben, ils n'ont pas vu qu'à un certain moment la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première depuis 150 km, et l'hélicoptère, moi, s'est crashé. Bon, ils sont morts sur le coup. Hein, l'hélicoptère a pas brûlé, c'est complètement disloqué.
Il y a 40 ans, le 14 janvier 1986, le crash d'un hélicoptère au Mali endeuillait le Dakar 8 ans après sa création. Ses 5 occupants meurent, dont le fondateur de l'épreuve, vous l'avez entendu, Thierry Sabine, et le chanteur star Daniel Balavoine. C'est un drame et une émotion nationale à l'époque qui a marqué une génération, je pense, et même ceux qui ne l'ont pas vécu, et qui a peut-être aussi changé parfois le rapport à cette compétition qui aujourd'hui s'est délocalisée en Arabie Saoudite. Elle s'est terminée hier. J'ai deux soixantenaires autour de la table et deux quarantenaires, donc forcément la vision va être différente, et nos auditeurs et auditrices aussi, j'imagine, sont forcément marqués par cette épreuve. Christophe, tu te rappelles de cette disparition, ce drame?
Oui,
est-ce que ça
sûr.
Avait provoqué dans mes
c'est un truc, ça a été une déflagration quand on a appris ce drame, parce que Sabine était symbolisait franchement le Dakar, tout habillé de blanc, l'homme qui était dans l'hélicoptère, belle gueule avec une barbe, il était vraiment le symbole même de cette course,
un personnage
qu'il avait créé, un personnage haut en couleur qui se baladait donc en hélico, et dans son hélico justement, le chanteur vedette de ces années-là, Daniel Balavoine, ces deux garçons qui disparaissent au cours d'une tempête de sable dans le désert, ça avait vraiment marqué les esprits, ça avait fait la une de tous les journaux, télé, radio et presse écrite, mais parce que le Dakar représentait vraiment à l'époque quelque chose d'important, la France entière suivait les aventures des uns et des autres, ça faisait les chaînes de télévision étaient vraiment cartonnées avec le Dakar, on regardait tout le résumé du soir. Aujourd'hui, qui regarde le résumé du Dakar tous les soirs? Parce que non seulement il y avait la bagarre pour le classement général avec des Vatanen et sa 205 Turbo 16, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette voiture, elle avait une gueule pas possible. Il y avait aussi les histoires de tous ces amateurs qui étaient filmés et qui en chiaient vraiment durant toute la course, qui le soir, la nuit réparaient tout seul à la frontale pour essayer de remettre leur machine en état. Il y avait des histoires humaines de tous les côtés. Et j'ai eu la chance en plus, moi, de couvrir le Dakar pour RMC. C'était en 2002. C'était un des derniers Dakar qui se déroulait en Afrique et j'ai vécu des moments exceptionnels.
Et Johnny, Johnny
exactement, Hallyday. Exactement. C'est l'année où Johnny Hallyday était aux côtés de René Medje. Et une anecdote terrible. Ils se perdent pendant une heure et quart, je crois. Une heure et demie. Et ils sont à l'arrivée et ils ouvrent la portière de la voiture. Là, il y a des volutes de gitanes ou de gauloises qui s'échappent de la bagnole parce qu'ils fumaient comme des troupiers, les décédés là. Et la phrase de Johnny, franchement, si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait arrivé déjà depuis une heure et quart. Alors là, quand même, quand tu es journaliste et que tu poses une question comme ça et que tu as cette réponse, tu te dis là, j'ai la phrase du siècle.
Attends, qu'est-ce qu'il avait dit, Johnny Hallyday?
Franchement, si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
Ah ouais.
Et là, c'était exceptionnel. Mais parce que ça, le Dakar rassemblait des stars à l'époque.
Non, mais t'avais une grosse émission le soir. C'était Bivouac, je ne dis pas de bêtises, c'est ça, non?
Avec Gérard Rolls,
ouais, exactement. Ça donnait envie. Et puis, comme tu viens de le dire, moi, j'avais 7-8 ans, donc forcément, ça ne m'a pas marqué. Mais un peu plus, mais côté artiste Balavoine, la disparition de Balavoine, parce qu'avec son. Tu te dis comment il se serait comporté, comment il aurait raconté la vie d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait fait. Mais c'était surtout les histoires d'hommes, ce qu'il y avait derrière.
Et ça existe toujours quand même, hein. Il y a toujours des histoires d'hommes en Arabie Saoudite, là, au Dakar. Il y a toujours des amateurs qui vont participer.
Ouais, mais ça a perdu de sa super.
On n'en entend plus parler.
Ouais, mais ça a perdu. Attendez, je te rappelle, c'est diffusé sur la chaîne L'Équipe depuis 3 ans, après 45 éditions sur France Télévisions. Jusqu'à 300 000 téléspectateurs ont raccroché, notamment cette année, le fait que c'est en direct permanent, désormais, même si on n'a pas des images toujours en direct, jusqu'à 640 000 le week-end. Donc il y a quand même toujours un public pour les sports méca. Pascal, pour toi, le Dakar, c'était quand même quelque chose, et ce drame-là a représenté quelque chose.
Bah surtout, ça, c'était le déclin pour moi de ma passion pour le Dakar. Donc peu à peu, j'ai cessé de regarder, je l'avoue.
À cause de ça.
Oui, parce que Christophe l'a si bien dit. En fait, Sabine, il incarnait le Dakar à lui seul. Et le fait que tout ce qui a entouré cette tragédie et le mystère qui existe encore, pourquoi ils sont posés à 20 km une première fois de l'arrivée, et pourquoi ils ont redécollé alors qu'ils réclamaient une voiture pour venir les chercher, tout ça on le saura jamais. Et puis ça m'a tellement touché au cœur. Parce que Balavoine, c'était un chanteur aussi populaire.
Ah,
c'était
très engagé.
En plus engagé, mais peu à peu, ma passion s'est estompée, je le reconnais. À tort, sûrement, parce que aujourd'hui, le Dakar est certainement de grande qualité, c'est certainement de grands champions, mais toujours est-il que je me suis tourné vers d'autres sports et ça me passionne moins. Voilà.
Bennett.
Moi, j'ai pas de souvenir de l'accident. Donc c'est très dur pour moi de dire quoi que ce soit sur le fondateur, sur Daniel Balavoine.
Mais le
Dakar pour moi, ça, quand vraiment c'était le Paris Dakar, il y avait le grand départ de Paris au pied de la Tour Eiffel, de la France. Il y a même des années où ça passait par l'Espagne. À un moment donné, ils prenaient le bateau à Grenade ou un truc comme ça, ils allaient après sur le continent africain. Mais les grandes étapes.
Dernière fois, c'était en 2007.
De grands déserts de sable, de dunes africains, et puis c'est arrivé au bord du lac à Dakar. Ça, c'était des images qui ont bercé mon enfance. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus un mélange de rallye raid, où ils tournent en boucle dans le même pays pendant 15 jours. Voilà.
Il n'y a plus l'aventure. Tu sens plus l'aventure.
Alors que ça doit être extrêmement dur.
Évidemment, on n'est pas là du tout pour minimiser ce que font les athlètes.
Moi, j'avoue que je regarde beaucoup un peu plus les motos. Parce que c'est peut-être pour la passion, mais là, il y a du pilotage, ils sont seuls et c'est très, très costaud.
Mais Davidès qui a gagné pour 2 secondes.
Ouais, 2 secondes.
Incroyable. Après 2 semaines de compétition. Ben, vous voyez, il y en a une histoire. Allez, on revient dans un instant. Les amis, on va parler comment passer le témoin dans le vestiaire alors qu'il les Bleus du Hand sont sans experts pour la première fois. Et puis on va parler également de la finale de la CAN. Supporters marocains du Sénégal, on vous attend tout à l'heure. Allez, on revient dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.